Bonjour mes frères et mes sœurs. Pourquoi la Bible contient-elle parfois des exemples frappants? Pourquoi la Bible parfois contient-elle des chapitres qui n'ont pas beaucoup de sens humainement parlant? Pourquoi y a-t-il dans la Bible tellement de questions qui ne sont pas vraiment, qui n'ont pas leur réponse? En premier lieu, pourquoi la Bible? Eh bien, la Bible a été écrite pour notre instruction. La Bible contient tout ce dont nous avons besoin afin que nous puissions, nous, un jour, arriver au but pour lequel nous avons été créés. La Bible nous montre le chemin à suivre. La Bible nous montre ce que Dieu attend de la part de chacun de nous. Et tous les chapitres de la Bible, et surtout les paroles du Christ, et surtout les paroles que le Christ a inspirées aux prophètes. Puisque je parle de prophètes, laissez-moi poser une question concernant l'un des prophètes mineurs. Alors, ce prophète mineur s'appelait Jonas. Avez-vous jamais entendu parler de Jonas? Selon toute probabilité, vous direz oui. Et vous penserez à un grand poisson, une baleine peut-être, je ne sais pas. C'est tout ce qu'on sait en ce qui concerne Jonas. Mais vraiment, si c'est une question de poisson et de Jonas, un miracle, du reste un miracle, la plupart des gens n'y croient pas. Vous savez, j'ai fait des commentaires, j'ai fait des recherches dans des livres, des commentaires, avant de faire ce sermon. C'est incroyable. Des grands esprits humains considèrent le livre de Jonas comme un livre de légende. Le miracle du poisson, du grand poisson, c'est pas important. Autrement dit, on perd le sens, la valeur de ce livre. Mais alors pourquoi le livre de Jonas se trouve-t-il dans la Bible? Pourquoi Dieu a-t-il permis cela? Si c'était une question de grand poisson qui n'a pas de sens, un miracle qui n'a pas eu lieu, ou bien quelque chose de fantastique, imaginaire, pourquoi Dieu a-t-il permis que le livre de Jonas paraisse dans la Bible? Ce sont des questions importantes. Voyez-vous, comme je dis, lorsque j'ai cherché dans les grands dictionnaires, encyclopédies, Jonas est presque vu comme si quelqu'un de peu d'importance. Alors qu'en réalité, Jonas est l'un des plus grands prophètes dans la Bible. Eh oui! Ce qui est important et ce qui est intéressant, et ce que la plupart des gens ne comprennent pas toujours, c'est que le livre de Jonas a une signification particulière pour nous montrer le chemin à suivre. À suivre, non pas seulement pour arriver au but, mais comment être heureux, comment avoir les yeux sur le Christ, comment savoir que le Christ est toujours là, il nous aime, il nous protège, que le Christ est notre sauveur. Tout cela, il se peut que ça vous impressionne un peu, peut-être, ou bien alors que ça vous étonne un peu, c'est aussi peut-être le cas, mais le fait est que le livre de Jonas, et je veux prendre, si je peux, verset par verset. Enfin, ce n'est pas grand-chose parce qu'il n'y a pas beaucoup de versets. En fait, je pense qu'il y a une quarantaine de versets en tout. Imaginez, un chapitre dans la Bible de Jonas, enfin un livre. Ce livre de Jonas se compose de 4 chapitres. Et tout ensemble, tous les chapitres, vous avez envoyé une quarantaine de versets. Et en plus de cela, on se demande pourquoi le livre de Jonas. On se demande quel rapport a le grand poisson dans tout cela. Eh bien, vous serez surpris. D'abord, en ce qui concerne Jonas lui-même, c'est un prophète qui a vécu environ 800 ans avant le Christ. Et ce livre qu'il a écrit nous montre exactement comment l'esprit humain raisonne, comment l'esprit humain travaille, et ensuite, quel est le but de la création. Mes frères et mes sœurs, il y a une chose qui est importante. D'abord, prenez votre Bible, si vous avez une Bible, et tournez cette Bible au livre de Jonas, et vous verrez que le mot Jonas même, certaines Bibles l'expliquent, signifie colombe, une colombe. Mais c'est quoi une colombe? Quelle est la mission d'une colombe? Et lorsque vous lisez un peu plus loin, vous verrez que dans ce livre, ce petit livre de Jonas, il y a énormément de citations des psaumes. Des psaumes. Et des autres prophètes comme Jérémie, comme Ésaïe. Mais pourquoi tout cela? Tout d'un coup, vous voyez un homme qui apparaît sur la scène et qui joue un rôle important. Et la plupart des gens ne comprennent pas pourquoi même Jonas a joué un rôle si important. Pourquoi la Bible, je répète, contient-elle des passages parfois assez difficiles à comprendre? Le Christ a parlé en parabole. Pourquoi? Était-ce pour aider les gens à comprendre? Non. Dans Matthieu, du reste, l'évangile selon Matthieu, le Christ a dit, je parle en parabole afin que les gens ne comprennent pas. Eh oui, ça, c'est une autre histoire. Mais prenons le livre de Jonas. Alors, ce livre se compose, je répète, de 4 chapitres, dont le premier montre la désobéissance de Jonas. Jonas, un prophète qui désobéit à Dieu, oui. Ensuite, le deuxième chapitre, c'est le chapitre connu comme le grand poisson. Mais quelle est l'importance de ce grand poisson? Ensuite, le troisième chapitre, et ça c'est le plus important, c'est une repentance totale, indescriptible, incroyable d'une nation qui était allée aussi loin que possible de Dieu. Une repentance. Donc, ce livre, ce petit livre de Jonas, nous montre l'importance du repentir. Et ensuite, le quatrième chapitre, je dis, c'est quelques versets seulement, la miséricorde divine. Alors, prenons, je dirais, verset par verset, ou à peu près, et laissez-moi vous expliquer. Vous verrez que ce petit livre de Jonas a une importance extrêmement je dirais, utile dans notre vie. Jonas chapitre 1, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas. À l'époque de l'Ancien Testament, Dieu parlait aux prophètes. Et ces prophètes nous ont transmis les paroles de Dieu. Ici, selon toutes les indications que nous possédons, c'est Jonas lui-même qui a écrit ce livre. Donc la parole de Dieu arrive à Jonas. Et Dieu a dit à Jonas, chapitre 1, verset 2, « Lève-toi !» Vous savez, dans la Bible, il y a plusieurs fois cet ordre, « Lève-toi !» Dieu a dit à Abraham, « Lève-toi et va faire ceci ou cela. » Abraham a obéi immédiatement. Certains des disciples, lorsque le Christ les a appelés, ils ont répondu à l'appel immédiatement. Mais ici, ça sera un peu différent parce que Dieu dit « Lève-toi, va à Ninive ». Ninive, c'était la capitale de l'Assyrie, un pays absolument païen, contraire aux principes de Dieu. Et il y a énormément de corruption dans cette ville-là. Alors Dieu demande à Jonas d'aller à Ninive, ensuite crier contre Ninive une prophétie. Pourquoi? La méchanceté de cette était montée donc jusqu'à Dieu. Alors, c'est intéressant. Dieu vous donne un ordre. Et vous savez que c'est Dieu qui vous parle. Quelle est votre réaction? Vous acceptez ou vous n'acceptez pas? Je ne parle pas maintenant des illusions, des hallucinations. Je parle, si vous aviez, mettons, une absolue certitude que Dieu vous a parlé, quelle serait votre réponse? D'une façon générale, les prophètes ont répondu à Dieu affirmativement. Voilà qu'ici, en Jonas, un prophète extrêmement important, vous verrez, lorsqu'il reçoit l'ordre de Dieu, il se lève, verset 3, et il s'enfuit. Il s'enfuit à Tarsis, autrement de l'autre côté du pays, du monde, pour ainsi dire, en Espagne. Mais pourquoi? Pourquoi un prophète qui reçoit un ordre de Dieu se détourne, va dans un autre pays? Les gens lisent la Bible les yeux fermés. Vous savez que dans ce livre même, Dieu répond pourquoi Jonas s'est détourné de cet ordre de Dieu. Et pourtant, j'ai entendu des gens qui disent, mais pourquoi est-ce que Jonas n'a pas fait ce que Dieu a dit? Eh bien, lisez la Bible. Vous verrez, du reste, je vais vous la montrer. Il y avait une raison. Et c'est cette raison qui est importante. Car vous, moi, nous avons tous ce même raisonnement. Jonas, enfin, je ne vais pas devancer. Vous verrez dans quelques instants. De toute façon, Jonas n'a pas aimé l'ordre de Dieu. Et c'est normal, humainement parlant. Souvent, nous n'aimons pas l'ordre de Dieu. Dieu nous dit de faire une chose, nous ne faisons pas. Mais ici, ce n'était pas directement un ordre qui déplaisait à Jonas. Jonas avait une autre raison. Nous allons le voir tout à l'heure. Donc, Jonas s'enfuit devant la face de l'Éternel. Il descend donc à Joppa, une ville. Il trouve un navire qui allait à Tarsis et paye le prix pour ce voyage. Et il s'embarque et il s'en va. C'est étrange. Tout d'un coup, vous vous éloignez de Dieu, vous allez dans un pays tout à fait étranger et vous faites des choses que vous n'auriez pas fait autrement. Voyez-vous, c'est ici que les gens commencent à se dire, tiens, c'est une légende, c'est une histoire. Non, ce n'est pas une légende, ce n'est pas une histoire. Ce que Jonas a fait ici, c'est réel. Ce que le livre de Jonas nous dit, c'est vraiment passé. Ensuite, maintenant, voyez-vous, mes frères et mes sœurs, laissez-moi vous dire une chose. Lorsque Dieu vous dit quelque chose, faites-le. Lorsque Dieu vous invite à quoi que ce soit, acceptez-le. C'est là la clé du bonheur. C'est là la clé du succès. Tout ce que Jonas aurait dû faire, c'est de faire ce que Dieu lui dit. Comme Abraham, comme les autres prophètes. Il aurait pu aller à Ninive et puis proclamer ce que Dieu lui avait dit. Mais d'autre part, si Dieu vous dit quelque chose, écoutez bien, si Dieu vous dit quelque chose, et si vraiment, Dieu veut que vous le fassiez, Dieu va vous montrer le chemin et Dieu va faire de sorte que vous fassiez ce qu'il vous a dit. Autrement dit, Dieu n'impose pas sa volonté, non. Mais parfois, il a une mission pour certains d'entre nous et Dieu veut que nous fassions cette mission parce qu'il sait que nous sommes capables de le faire. Alors, il verra à ce que nous accomplissions la mission. Ici, Dieu avait choisi Jonas. Dieu connaissait le cœur de Jonas. Et Dieu voulait que Jonas aille à Ninive et proclame contre cette ville leur corruption. Alors, maintenant vous avez en quelque sorte une lutte entre Jonas et Dieu. Évidemment, Dieu est gagnant. Dieu voulait que Jonas fasse ce travail, cette mission. Alors, l'Éternel, nous voyons dans verset 4, chapitre 1, puisque Jonas est sur un bateau, qu'est-ce que Dieu fait? Très simple, il fit souffler sur la mer un vent impétueux. Verset 4. Ah bon, tu as pris un bateau? Regarde ce que je peux te faire. Donc, le navire commence à faire naufrage et les mariniers, verset 5, ont peur. Les mariniers ne sont pas des gens convertis. Ils ne savent pas ce qui se passe. Tout d'un coup, ils étaient sur un navire tout à fait tranquille, dans une mer tranquille. Voilà que tout d'un coup, de tout est dérangé. Ils se demandent ce qui se passe. Alors, évidemment, la première chose qu'ils font, ils jettent tout ce qui n'est pas nécessaire sur le bateau afin que le bateau soit plus léger. Ça, c'est intéressant. Vous savez, parfois, la Bible contient des versets qui sont franchement comiques. Lorsque vous êtes vraiment en danger, lorsque vraiment vous voyez tout autour de vous, enfin, vous faites naufrage, est-ce que vous allez vous coucher? Alors que tout le monde sur ce bateau a peur, il ne sait pas ce qui va se passer, voilà que Jonas descend au fond du navire, se couche et s'endort. Intéressant. Les autres ont peur alors que Jonas s'endort. Pourquoi? Est-ce qu'il avait le cœur tranquille? Non, pas du tout. Jonas savait fort bien qu'il avait désobéi à Dieu et que cet orage, c'était à cause de lui. Les autres ne savaient pas. Alors, il voulait se cacher loin de Dieu. Peut-être le sommeil, peut-être, lui donnerait de la paix d'esprit, qui n'est pas le cas. Qu'est-ce qui se passe? Alors donc, finalement, le pilote du navire cherche ce qu'il peut chercher, ce qui peut se passer. Il voit que cet homme-là Et donc, alors il s'approche de lui, verset 6, il dit, mais pourquoi est-ce que tu dois, pourquoi est-ce que tu dors? Tu vois pas qu'il y a, nous faisons naufrage? Lève-toi. Et il dit, invoque ton Dieu, peut-être viendra-t-il penser à nous et nous ne nous périrons pas. Déjà, une révélation. Évidemment, sur ce bateau, tout le monde priait. Tout le monde priait à son Dieu. Mais les gens ont vu que chez Donas, il y avait quelque chose de différent. Il était différent des autres. La Bible ne donne pas les détails, mais voilà que tout d'un coup, le pilote s'approche et dit, écoute, nous avons tous prié, en quelque sorte, à notre Dieu. Maintenant, va prier à ton Dieu. Et voici, ton Dieu va faire quelque chose. Donc, ils se dirent les uns aux autres, venez et tirons au sort pour savoir qui d'entre nous a commis un péché, pour que donc qu'ils perdent tous leur vie. Autrement dit, ils ne savent pas ce qui se passe. Ils prient, ils n'ont pas de réponse, ces gens-là. Ils voient Jonas, qui peut-être a aussi commis un péché impardonnable, je ne sais pas. De toute façon, à l'époque, ils ne savaient pas comment avoir une réponse de Dieu, parce que ces gens étaient des païens. Ils ne croyaient pas aux prophètes. Il y avait un prophète au milieu d'eux, Jonas. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Il tire au sort. C'était une façon de savoir comment vraiment savoir qui est coupable. Tant qu'il tire au sort, et voilà que le sort tombe sur Jonas. Alors, comme je dis, si Dieu vous confie une mission, faites-la. Allez jusqu'au bout. Ne vous détournez pas de Dieu. Tout d'un coup, donc, les gens voient que Jonas est coupable. Alors, ils disent, mais qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi ce malheur? Quelles sont les affaires là? Et d'où viens-tu? Autrement dit, ils ne savent pas qui est Jonas. D'abord, pourquoi tu es sur ce bateau? Qu'est-ce que tu as fait? Puisque le sort est tombé sur toi, tu es coupable, mais qu'est-ce que tu as fait? Quel est ton péché? Il répond, voyez-vous, Jonas était honnête. Il pouvait nier, mais il a dit non. Écoutez, je suis hébreu, verset 9. Je crains l'Éternel, le Dieu des cieux et de la terre. Ces gens-là ont vu, ont compris qu'il y avait dans Jonas quelque chose d'autre. Que Jonas adorait un Dieu différent du leur. Et c'est ce Dieu-là qui a causé cet orage, que le navire était en train de faire naufrage. Donc ce Dieu-là a certainement le pouvoir d'arrêter l'orage. Alors, et évidemment, Jonas en est au courant. Il dit, je suis hébreu, je crains l'Éternel Dieu. Et dit-il, qui a fait les cieux et la terre? Ces hommes-là ont été effrayés. Parce que oui, à l'époque, ils avaient entendu parler des Hébreux. Ils avaient entendu parler de cette nation hébreu, hébraïque, si vous voulez, et qui avait un Dieu qui les a fait sortir du pays d'Égypte, etc. Alors, ces hommes-là ont peur, une grande frayeur. Ils disent, mais pourquoi donc as-tu fait cela? Pourquoi est-ce que tu as péché contre Dieu? Ils se demandent, qu'est-ce qu'il faut faire? Et ils se disent, que ferons-nous? Verset 10, verset 11. Pour que la mer se calme. Car, dit-il, verset 11, la mer était de plus en plus en rage, ou bien orageuse. Et Jonas leur répond. Maintenant, regardez voir. Maintenant, l'histoire commence. Jonas sait qu'il est coupable. Jonas sait que l'orage est arrivé à cause de lui. Et que les gens, maintenant, se tournent vers l'Éternel Dieu, non pas parce qu'ils croient à cet Éternel Dieu, mais ils veulent que cet Éternel Dieu fasse quelque chose. Et Jonas leur dit, et il leur dit ce qu'il faut faire. Il dit, prenez-moi, dit-il, et jetez-moi hors de ce navire, car, dit-il, c'est à cause de moi que ceci arrive. Je paraphrase cette grande tempête. savez, il faut avoir du courage pour faire cela, pour dire cela. Ces hommes ramenèrent pour gagner la terre, mais ils ne pouvaient pas, ils ont fait tous pour sauver le navire. Et en fin de compte, ils n'avaient pas de choix. Ils jettent Jonas hors du navire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Verset 14. Alors, ils invoquèrent l'Éternel. C'est intéressant parce que voilà des gens qui ne croient pas à Dieu. Voilà maintenant qu'ils commencent à prier Dieu. Ils disent, Éternel, ne nous fais pas jeter périr tous à cause de la vie de cet homme. C'est toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Encore un autre point intéressant. Païen ou non, parfois les gens se réveillent et savent qu'il y a un Dieu, le véritable Dieu. Ici, c'est à cause du sort qui est tombé, je ne sais pas quoi. De toute façon, tout d'un coup, ils voient qu'il y a le véritable Dieu, ils se tournent vers lui, ils commencent eux-mêmes à prier. Ensuite, après avoir fait cette prière, ils prennent Jonas, ils le jettent dans la mer. Qu'est-ce qui se passe? Verset 15, verset 16, la mer cesse de s'agiter. Des miracles? Voilà des gens qui ont vu des miracles, l'un après l'autre. Pourquoi est-ce que lorsqu'on lit la Bible, on ne voit pas ces choses-là? Des païens voient le miracle, ils savent qu'il y a un Dieu, le Dieu suprême qui a créé les cieux de la terre. Tout d'un coup, tout se calme. Et ces hommes-là, donc, étaient saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Regardez voir, plusieurs choses arrivent. D'abord, avec tous ces miracles-là, maintenant même, ces païens commencent à se demander, mais qu'est-ce que c'est? Ils ont cru que l'Éternel Dieu ferait quelque chose, et l'Éternel Dieu a fait quelque chose, maintenant ils ont la crainte. Alors, ils demandent, qu'est-ce qu'ils ils font donc? Ce qu'ils ont toujours fait, ils offrent des sacrifices à leur Dieu. Autrement dit, à l'époque, on voulait en quelque sorte récompenser Dieu ou bien faire quelque chose. Donc, ils font des sacrifices. Ils ont pensé que c'était des sacrifices à l'Éternel. En réalité, c'était des sacrifices à leur Dieu. Alors, premier chapitre. C'est la fin du premier chapitre. Jonas a désobéi. La question est pourquoi? Pourquoi Jonas n'a pas voulu obéir à Dieu? La réponse se trouve au chapitre 3, mais je viendrai dans quelques instants. Prenons maintenant chapitre 2, le chapitre du grand poisson. Intéressant, beaucoup de gens, je répète, lisent la Bible les yeux fermés. On parle de baleine. La Bible ne parle pas de baleine. La Bible dit qu'il y avait un grand poisson, que Dieu fit venir un grand poisson. C'était une baleine, je ne sais pas, absolument, tout ce que je sais, je crois en Dieu, Dieu a fait venir un grand poisson. Il a créé un grand poisson, pour l'occasion, si vous voulez. Ce n'est pas à peine de deviner ce que Dieu fait. Le fait est que ce poisson était capable d'avaler, Jonas, c'est ce qu'il a fait, et que ce qui est écrit ici, c'est réel. Vous direz, écoutez, monsieur Apportion, vous êtes fou. Parce que tous les livres, toutes les encyclopédies parlent de ce chapitre comme une fantaisie, une histoire d'enfant. Eh bien, mes frères et mes sœurs, ce n'est pas une histoire d'enfant, car ce chapitre contient un secret, je dirais, une vérité qui dépasse notre imagination, car ce chapitre nous montre qui est Jésus-Christ. Eh oui, maintenant, notez-le. Jonas est maintenant dans le ventre du grand poisson, et il reste 3 jours et 3 nuits. Mais pourquoi? Pourquoi 3 jours et 3 nuits? Je m'arrête ici maintenant, je vais prendre Matthieu, le Nouveau Testament, l'évangile de Matthieu, et voir ce que le Christ a dit. À propos, laissez-moi vous dire en ce qui concerne les déclarations du Christ, que le Christ a souvent parlé évidemment de l'Ancien Testament. Il a aussi mentionné le nom de plusieurs prophètes dans le Nouveau Testament. Évidemment, le Christ parle des prophètes d'une façon générale, mais il a nommé certains prophètes. Le Christ a nommé, par exemple, dans les évangiles, Moïse. Bon, nous comprenons. Le Christ a nommé Élisée. Ensuite, Élie. Bon, c'est intéressant. Et ensuite, le Christ a aussi nommé Jonas. Jonas! Comment ce petit prophète, pour ainsi dire, qui a écrit un petit livre de quelques versets, de quarantaine de versets, pourquoi Jonas? Notez-le. Matthieu chapitre 12. Le Christ à l'époque a fait beaucoup de miracles, les gens ne comprenaient pas. Les gens ne voulaient pas croire que le Christ est le Créateur suprême. Et voilà que quelqu'un lui dit au Christ, ou bien les scribes, les pharisiens disent, « Montre-nous un miracle. » Mais écoutez, vous êtes fous. Vous n'avez qu'à lire les évangiles, le Christ n'a cessé de faire des miracles. Et voilà que tout d'un coup, on dit, « Fais-nous un miracle. » La question, avec les autres évangiles, vous verrez que la question était, « Fais-nous un miracle pour prouver que tu es le Messie. » Donc, il voulait avoir un miracle pour prouver. Alors, que pensez-vous que le Christ a montré, a donné comme miracle pour prouver que lui, le Christ, est vraiment le Christ? Il a pris l'exemple de Jonas. Voilà pourquoi c'était très important. Le Christ a dit au verset 39, chapitre 12 de Matthieu, il dit, une génération méchante, adultère, demande un miracle. Il ne sera donné aucun autre miracle que celui du prophète Jonas. Et oui, prophète Jonas. Car du même dit-il que Jonas fut 3 jours et 3 nuits, c'est ce que nous avons vu, 3 jours et 3 nuits, dans le ventre d'un grand poisson. Voyez-vous, le Christ n'a pas dit baleine non plus. Un grand poisson. De même dit-il, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. C'est vraiment intéressant. Et pourtant, aujourd'hui, regardez voir, les prétendus chrétiens observent la résurrection du Christ le dimanche matin. Et ils pensent que le Christ est mort le vendredi après-midi. Je vous pose cette question simple. Comment pouvez-vous compter entre vendredi après-midi, dimanche matin à l'aube, 3 jours et 3 nuits? Ben vous ne pouvez pas. Il faut tordre les Écritures ou bien tordre les calculs. Et même avec ça, vous n'arriverez pas. Le Christ prend l'exemple de Jonas pour montrer qu'il sera 3 jours et 3 nuits, exactement comme Jonas. Aucun des Juifs, ou je dirais, aucun des commentaires, ne nie le fait que Jonas a été enterré ou bien dans le grand poisson, 3 jours et 3 nuits. Pourquoi alors ne pas croire au Christ ? Lorsqu'il prend le même exemple pour montrer que lui est passé par la même expérience et qu'il est le Créateur suprême. Ensuite, le Christ dit, les hommes avaient, verset 11, Matthieu chapitre toujours 12, verset 11, les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et ils la condamneront. Parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Maintenant, revenons au livre de Jonas, chapitre 2. Comment est-ce que Jonas a fait de sorte que les gens se repentent? Eh bien, il a dit exactement ce que Dieu lui avait dit. Voyez-vous, c'est ici, le deuxième chapitre montre maintenant un visage différent. Ce deuxième chapitre nous montre que n'importe quand, n'importe qui peut se repentir. Et Dieu est capable de pardonner les péchés lorsque l'individu en question, ou bien même une nation s'en repent totalement de leurs péchés. Chapitre 2, je répète, donc l'Éternel a fait venir un grand poisson. Et voilà que Jonas, dans ce grand poisson-là, il commence à prier Dieu. Et vous savez, c'est beau aussi. Prenez le temps de lire et de chercher dans les psaumes la prière de Jonas. La plupart du temps, je répète, ces prières que vous voyez dans quelques versets ici, sont tirés des psaumes, ou bien d'autres prophètes comme Ésaïe, comme Jérémie. Il dit, « Dans ma détresse, dit-il, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. » Regardez voir, c'est Jonas qui s'est enfui de la face de l'Éternel, fait une prière que plus tard le Christ a répétée. Il dit, « Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. » Autrement dit, Jonas parle maintenant du salut, du même salut que le Christ a proclamé lorsqu'il était sur cette terre. On peut voir maintenant la ressemblance entre Jonas et le Christ. Jonas est un type, le type pour présenter le Christ en quelque sorte. Il dit, tu as entendu ma voix, tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer. Et les croix m'ont environné. Toutes les vagues, tous les flots sont passés sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ta face, loin de toi. Mais dit-il, je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à monter la vie. L'abîme m'a enveloppé, verset 6. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Mais quoi? Mais tu m'as fait remonter vivant la fosse. Verset 7. Voyez-vous, mes frères et mes sœurs, je répète, c'est une double prophétie. Ce qui se passe avec le Christ, en quelque sorte, Jonas nous montre par l'exemple que Dieu lui a fait montrer. Donc, ce sont des prières. Je dis, c'est des prières qui sont tirées dans les psaumes. Ensuite, il répète, « Éternel mon Dieu », verset 8, « Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. » Oui, nous devons toujours nous souvenir de l'Éternel, quelles que soient les circonstances. « Ma prière est parvenue jusqu'à toi. Dans ton saint temple, dit-il, ceux qui s'attachent deviennent idoles. » Éloigne de la miséricorde. Bon, vous verrez dans quelques instants la signification de cette phrase. Pour moi, dit-il, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. Alors que les autres sur le navire ont offert des sacrifices à leur façon. Ici, Jonas commence à comprendre maintenant, et se repent évidemment, et il offre à l'Éternel des sacrifices que Dieu accepte. J'accomplirai, dit-il, tes vœux que j'ai fait. Le salut vient de l'Éternel. Vous savez, là, je me tais. Je voudrais montrer des exemples dans la Bible, des versets qui montrent exactement comment le salut est entre les mains de Dieu. Ici, je répète, Jonas nous montre tout d'un coup que dans le ventre du poisson, il se réveille. Il voit ce qu'il a fait, il se repent, et voilà que maintenant il reprend la mission pour laquelle Dieu l'avait appelé. Il dit, le salut vient de l'Éternel. Rappelez-vous cette phrase, le salut vient de l'Éternel. Qu'est-ce que le Christ a dit dans Jean chapitre 3, verset 16? Le Christ est mort afin que tous soient sauvés. Regardez encore Jérémie. Je fais un détour, ça vaut la peine. Jérémie. Lorsque vous mettez tous ces versets ensemble, vous commencez à comprendre l'importance de la mission de Jonas. Et vous verrez pourquoi Dieu a voulu que ce livre de Jonas nous serve d'exemple, parce que Dieu veut nous montrer la voie à suivre pour arriver au but. Jérémie chapitre 15. Jérémie chapitre 15. Prenons juste quelques versets, verset 20. Jérémie 15, verset 20. Jérémie dit, je te rendrai pour ce peuple, c'est Dieu qui parle, comme une forte muraille d'airain. Ils te feront guerre, mais ils ne te vaincront pas. « Car je serai avec toi pour te sauver, être délivré. La même promesse qu'il a faite à Jonas. Dieu sauve celui qui le fait. Je te délivrerai, dit-il, de la main des méchants. Je te sauverai de la main des violents. Pourquoi je cite ces versets? Pour vous montrer que c'est Dieu qui sauve. Le seul sauveur que nous avons, c'est Dieu. Jonas s'est rendu compte. Il le savait, mais il s'est réveillé. Je ne sais pas si je peux encore peut-être prendre, vous voyez, Ésaïe chapitre 48, 43 plutôt. Je ne veux pas faire beaucoup de tours, mais ce sont des choses importantes pour vous montrer que c'est Dieu qui sauve. C'est Dieu qui est toujours notre sauveur. Ésaïe chapitre 43. Jonas a voulu s'évader, il n'a pas réussi. Car vous ne pouvez pas vraiment vous évader. Dieu vous trouvera toujours. Vous ne pouvez pas vous échapper. Ce n'est pas possible. Ésaïe 43, verset 10. Je dis, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que, dit-il, que vous sachiez que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Autrement dit, il montre sa puissance. Il n'y a pas plusieurs dieux. Il n'y a pas des dieux étrangers. Il dit, il n'y a qu'un seul Dieu. Il dit, après moi, il n'y a point été formé de Dieu. Verset 10. Et dit-il, après moi, il n'y aura pas d'autre Dieu. C'est moi qui suis l'Éternel. Oh, moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui annonce et qui sauve, qui prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, etc. Donc, je peux encore vous citer plusieurs, mais ce n'est pas la peine. Autrement dit, vous ne pouvez pas vous évader. Maintenant, revenons à Jonas, histoire fascinante. Nous avons vu que le grand poisson, ce n'était pas une baleine, mais de toute façon, c'était un poisson que Dieu avait fait venir afin que Jonas puisse accomplir sa mission. Et quelle était cette mission? Qui avait déplu tant à Jonas? Et pourquoi donc, je répète, Jonas n'a pas voulu obéir à Dieu? Nous arrivons au chapitre 3. Je répète, le premier chapitre de ce livre montre que le prix de la désobéissance. Si vous ne faites pas ce que Dieu vous dit, vous payez les conséquences. Le deuxième chapitre, c'est en quelque sorte le réveil. Et c'est ce que Jonas a fait. Il commence à voir que non, il faut absolument qu'il obéisse à Dieu. Faites ce que Dieu vous dit, vous serez toujours béni. Quelles que soient les circonstances, faites ce que Dieu vous dit, vous serez toujours béni. Ça, c'est le prix. Ça, c'est la condition absolue, sans exception. Il se peut que vous ayez des tragédies, des malheurs, je ne sais pas, mais faites en toutes circonstances ce que Dieu vous dit, vous serez béni. C'est la leçon que Jonas a appris dans ce deuxième chapitre, et en même temps, il a appris quelque chose d'autre. Il a appris qu'on ne peut pas s'éloigner de Dieu, comme d'ailleurs nous voyons dans la Bible, où que nous soyons, les yeux de Dieu sont là, Dieu nous voit, on ne peut pas y échapper. Jonas s'est réveillé et a accepté la mission pour laquelle Dieu l'avait appelé. Quelle était cette mission? Chapitre 3. Cette mission, nous l'avons vu déjà au chapitre 1. Dieu voulait que Jonas aille dire au peuple, écoutez, vous avez péché, repentez-vous, ou alors ça sera la fin. Regardez voir la mission. La parole de l'Éternel, chapitre 3, verset 1, fut adressé à Jonas une seconde fois. La première fois, Jonas s'est évadé. En ces mots, lève-toi, voilà, ça commence. Va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je te ordonne. Voilà maintenant la mission de Jonas. Vous savez, c'est une mission, les gens ne se rendent pas compte. Ce livre est réel. La nation assyrienne existait. Ninive était la capitale. Et vous savez, la grandeur de Ninive, laissez-moi vous le montrer. Chapitre 3, verset 3. Jonas se leva, alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel Dieu. Or, regardez voir la grandeur de Ninive. Ce n'était pas une ville comme Paris, je dirais. Or, Ninive était une grande ville, très grande ville. 3 jours de marche, Jonas fit d'abord dans la ville une tournée de marche, et il criait, il disait, encore 40 jours, et Ninive sera détruite. Ce n'est pas une prophétie agréable, ce n'est pas une prophétie, je dirais, gaie pour écouter. Comment voulez-vous qu'un prophète dise à une nation, écoutez, encore quelques jours, et vous perdrez la vie. Voilà la mission. La mission que Jonas ne voulait pas accepter, pour une raison que nous allons voir dans quelques instants, ce n'était pas une mission heureuse. C'est une grande ville. Je vais vous montrer maintenant combien cette ville était grande. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est notre deuxième leçon. Lorsque vous commettez un péché, quelle que soit la gravité de ce péché, si vous vous repentez sincèrement, honnêtement, pour ne pas y revenir, Dieu vous pardonne. Ça, c'est la beauté de l'appel divin. Ça, c'est la bonté divine, la fidélité de Dieu, sa miséricorde. Nous allons voir ce que c'est que la miséricorde dans quelques instants. Donc, les gens de Ninive, ça c'est incroyable, ce n'est jamais arrivé dans l'histoire. Depuis le commencement de l'histoire, jusqu'à nos jours, et même jusqu'au retour du Christ, il n'y aura pas une telle repentance nationale. On aurait voulu qu'il y en ait, ça serait formidable si toute la nation aujourd'hui, la France, l'Amérique, les autres pays, le Canada, si tous se repentaient, les malheurs prophétisés dans la Bible n'arriveraient pas. C'était la mission de Jonas de dire, de proclamer aux gens. Jonas ne pensait pas que le peuple se repentirait. Et franchement parlant, je me demande si Dieu s'attendait à ce qu'il y ait un miracle pareil. Alors, les gens de Ninive crurent à Dieu, verset 5, incroyable. Et jeûnèrent, ils proclamèrent un jeûne, le roi proclame un jeûne. Ils se revêtirent de sacs, c'était la coutume du pays à l'époque, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. La chose parvint jusqu'au roi, qui se leva aussi de son trône, ôta son manteau, autrement dit s'humilia, se couvrit d'un sac, s'assit sur la cendre, autrement dit, à leur façon, ils se repentent. Je répète, ce n'est jamais arrivé dans l'histoire. Une grande nation se repent devant Dieu, alors que Dieu a dit, vous allez tous périr. Donc les gens de Ninive crurent à Dieu. Et qu'est-ce qui se passa? Donc le roi même se lève, il ôte son manteau, il s'assied, il se repent, se couvre du sac, et il fit dans Ninive une sorte de proclamation intéressante, parce que, voyez-vous, il avait tellement peur, il ne savait pas comment vraiment plaire à Dieu. Alors il dit que les hommes, verset 7, et les bêtes, même les bêtes, les bœufs, les brebis, ne coûtent absolument rien, ne pèsent point, et ne boivent point. Autrement dit, c'est un jeûne général, y compris les animaux. Voilà, jusqu'à quel point ce roi et ce peuple, à l'époque, leur repentir était sincère. Si votre repentir est sincère, à ce point-là, vous serez toujours béni. Donc, il proclame ceci. Et dit-il, Dieu avec force, et qu'ils reviennent de leur violence, qu'ils reviennent de leur péché. Autrement dit, encore une fois, ici, même le roi montre aux gens que si nous nous repentons, Dieu nous pardonnera. Évidemment, dans son esprit, il y avait peut-être un doute. Il dit, qui sait, verset 9, si Dieu ne reviendra pas, ne se repentira pas. Ici, le mot repentir à propos est un peu différent. Dans la Bible, voyez-vous, le mot se repentir, c'est on se repent d'un péché. Mais ici, la traduction, c'est regretter d'avoir fait quelque chose. Dieu a regretté, mettons, d'avoir causé quelque chose, mais Dieu n'a pas besoin de se repentir. Ici, je répète, le mot se repentir, c'est Dieu ne regrettera pas. Et s'il ne va pas changer donc d'avis, revenir de son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Verset 10, chapitre 3. Dieu vit que comment ces gens agissaient et qu'ils venaient donc de leur mauvaise voie. Alors Dieu changea d'avis, se repentit, voyez, d'avis du mal qu'il avait projeté. Et résolut de faire, qu'il avait projeté de faire, et il ne le fit pas. Je sais que je vais un peu vite parce que j'avais d'autres choses ici en tête, mais peut-être je reviendrai dans quelques instants, si le temps me permet, parce que je vous montre en grande ligne l'importance de ce livre, le rôle que Jonas a joué, comme il a agi comme le Christ en tant que sauveur, le type lui-même, le sauveur du monde. Ici, vous voyez le repentir. Mes frères et mes sœurs, combien d'entre nous prenons vraiment le temps chaque jour de nous repentir des péchés que nous commettons, pas des péchés que nous avons commis avant le baptême. Des péchés commis avant le baptême ont été pardonnés, lavés, éliminés. Mais chaque jour, de par notre nature, comme Jonas, nous commettons des péchés. Nous nous détournons de Dieu. Alors, chaque jour, pouvez-vous dire que lorsque vous vous couchez la nuit, avant de vous coucher, que vous demandez à Dieu de vous pardonner les péchés que vous avez commis le jour même? Car nous commettons tous des péchés. Nous avons cette nature humaine en nous, jalousie, de mauvaises pensées, de mauvais actes, tout ce que vous voulez. Donc, nous nous repentons de telles choses. Voilà pourquoi Dieu nous dit, ici, très clairement, que nous devons vraiment, si nous avons cette attitude-là, que Dieu change ce qu'il avait décidé pour nous et il nous pardonne nos péchés. Dans Actes, chapitre 2, je fais un petit détour ici. Il y a tellement de choses, je dis, j'ai peur parfois de sauter trop et puis de ne pas, ou bien de ne pas dire assez. Ici, l'apôtre Pierre nous montre l'importance du repentir en ce qui concerne le baptême. Actes chapitre 2. L'apôtre Pierre a fait un sermon fantastique, inspiré, le jour de la Pentecôte. Et il a dit aux gens, voilà les péchés que vous avez commis, exactement comme Jonas a dit au peuple de Ninive, les fautes qu'ils avaient commises. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous vous rendez compte de vos péchés, lorsque vous vous en repentez et vous faites ce que Dieu a dit, par exemple dans Actes chapitre 2, verset 38, lorsque les gens ont entendu l'apôtre Pierre parler ainsi, ils ont dit, que devons-nous faire? Et Pierre a dit, repentez-vous, exactement comme ce qui s'est passé à Ninive. Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé. Allez, maintenant, c'est notre baptême que le Christ nous recommande. Au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de nos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ensuite, quand cette promesse, dit-il, est pour tous, pour eux à l'époque et pour nous aujourd'hui. Là encore, c'est une autre histoire, mais je voudrais quand même que vous compreniez l'importance du repentir. Si aujourd'hui, les chrétiens d'une façon générale, ceux qui se proclament chrétiens, comprenaient l'importance du repentir, comme ici, il n'y aurait pas tant de souffrance en ce bas monde. Il n'y aurait pas ces guerres. Il n'y aurait pas ces holocaustes que nous avons eu deux holocaustes de notre époque, à notre époque. Incroyable. Vous avez vu les films. Parfois, j'ai regardé ces films, ça me fait vomir de voir ces souffrances, l'holocauste dont on parle. Ces gens, ces enfants, ces femmes qui meurent, qui sont massacrés, qui sont torturés. Où est Dieu, demandent les gens. Dieu est toujours là. Où était Dieu lorsque les gens de Ninive péchaient? Dieu est toujours là. Ce n'est pas Dieu qui cause les malheurs. C'est nous qui causons les malheurs à cause des péchés que nous commettons. Dieu a dit dans la Bible, fais ce que je te dis, tu seras béni. Mais si tu fais, si tu agis à ta façon, tu souffriras. Ça, c'est la leçon. La leçon qui se répète à travers la Bible, qui se répète à nouveau dans Jonas, et que nous retrouvons dans tous les enseignements du Christ à travers la Bible. Je reviendrai à ça dans quelques minutes, mais continuons cette histoire avant de venir à quelques autres versets bibliques. Lorsque Jonas a proclamé, lorsque Ninive s'est repentie, lorsque Dieu a changé d'idée, qu'est-ce qui se passe? Chapitre 4. Je reviendrai au détail dans quelques instants, mais prenons chapitre 4 parce que je vous ai posé une question au commencement de ce sermon. J'ai dit, pourquoi est-ce que Jonas a désobéi à Dieu la première fois? Le savez-vous? Enfin, pourquoi Jonas, lorsque Dieu a dit « Lève-toi et proclame à Ninive », la mission que Dieu avait confiée, Jonas n'a pas voulu. Pourquoi? Vous savez pourquoi? C'est votre nature humaine, c'est ma nature humaine. Car nous sommes tellement vains que nous voudrions que ce que nous disons soit accepté par les autres. Nous ne voulons pas être pris, mettons, pour un faux prophète. Regardez voir. C'est incroyable. Verset 1, Jonas chapitre 4, cela déplut fort à Jonas. Mais qu'entendez-vous? Dieu a pardonné à Ninive, et voilà que Jonas est malheureux. Il n'aime pas ça. Est-ce que vous n'aimez pas lorsque Dieu pardonne à quelqu'un? Lorsque Dieu récompense quelqu'un? Lorsque Dieu, malgré les péchés de quelqu'un, si c'est quelqu'un se repent, Dieu le bénit? Vous n'aimez pas ça? Humainement parlant, non. Jonas n'a pas aimé ça. Il était irrité. Irrité. Il implora l'Éternel. Il dit, ah, Éternel, n'est-ce pas? Voilà maintenant la réponse. Voilà pourquoi Jonas n'a pas accepté la mission de Dieu la première fois. Il dit, n'est-ce pas là? Voyez-vous, la Bible ne dit pas tout, ne donne pas les détails. Mais il y a eu une conversation entre Dieu et Jonas. Il dit, ah, Éternel, dit-il, verset 2, n'est-ce pas là ce que je te disais quand j'étais encore dans mon pays? Quand j'étais encore dans mon pays, c'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, et que tu repens, et que tu te repens du mal. Autrement dit, tu changes d'idée s'il le faut. Autrement dit, à cause de tout cela, Jonas ne voulait pas être considéré comme un prophète dont les paroles ne sont pas accomplies. L'orgueil. C'est cet orgueil qui a fait Jonas se détourner de Dieu, se détourner de la mission. Parce qu'il savait que Dieu est bon, Dieu est plein de miséricorde, et que Dieu pardonnerait, et que Jonas serait pris pour un faux prophète. Quelle vanité. Vous savez, il y a énormément de leçons dans ce petit chapitre. Maintenant, dit-il, à ce point-là, l'esprit humain est orgueilleux. Vous voulez, vous préférez la mort plutôt que d'être déshonoré à cause d'une bonne cause. Maintenant, dit-il, l'Éternel, prends ma vie. La mort n'est plus agréable, mais préférable à la vie. Je dis, on pouvait, lorsque vous lisez ces choses, prenez le temps, réfléchissez. Il y a tellement de choses là-dedans. C'est votre nature, c'est ma nature. Dans notre vie courante, nous agissons ainsi. Nous voyons quelqu'un qui est béni. Et ça nous fait du mal, nous sommes irrités. Nous ne comprenons pas la bonté de Dieu, car Dieu est miséricordieux à l'égard de tous. Et parfois, nous sommes jaloux. Voilà que Jonas était jaloux, parce qu'il savait que Dieu peut changer d'idée, et que donc il ne voulait pas aller la première fois, jusqu'à ce qu'il s'est réveillé dans le ventre du grand poisson, et que lui-même a compris que non, il faut absolument que je fasse quelque chose. Et que maintenant, il a compris ceci, mais lorsque la chose arrive réellement, lorsque Jonas voit que malgré ce qu'il a prêché, voilà que Ninive n'a pas été anéantie totalement, Jonas est irrité. Je dis, c'est votre histoire, c'est mon histoire, c'est notre nature humaine. Et maintenant, la fin de l'histoire, c'est magnifique parce que Dieu nous montre. C'est ce que j'appelle le chapitre 4, le chapitre de miséricorde. Dieu explique à Jonas ce que c'est que la miséricorde. À vous, à moi. Verset 4, chapitre 4. L'Éternel dit, fais-tu bien de t'irriter? Regardez voir la façon dont Dieu s'exprime toujours. Toujours avec bonté, toujours avec gentillesse, toujours avec miséricorde. Jonas s'irrite, il veut mourir. Dieu lui dit comme un père plein d'amour, il dit, fais-tu bien de t'irriter? Et Jonas dit, et Jonas sortit de la ville, s'assit à l'orient de la ville. Voyez-vous, il est toujours fâché. Il se fait une cabane et s'y tient à l'ombre. Jusqu'à ce qu'il arrive donc dans la ville pour voir ce qui va se passer. Quand on m'a dit, il était déçu, irrité, il s'éloigne, comme nous faisons tous, dans un petit coin, ben, je m'éloigne de tout. Il y a, dans ce chapitre, énormément de vous, énormément de moi. C'est votre caractère, c'est mon caractère, c'est comme ça que nous nous comportons à l'égard les uns des autres, en famille, avec nos amis, tout ce que vous voulez. Alors l'Éternel Dieu, qui est toujours plein de bonté et de miséricorde, fit croître, verset 6, un raisin, une petite plante, qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner des ombres, de l'ombre sur la tête de Jonas. Voyez-vous, là encore, Dieu voit que Jonas a la tête découverte, et que Dieu fait quelque chose pour protéger encore Jonas. Regardez voir les deux extrêmes, la bonté de Dieu et la futilité de l'homme, nature humaine. Donc il fit lever une plante pour couvrir la tête de Jonas, pour lui ôter donc son irritation. Jonas éprouva une grande quoi ? Joie à cause de ce ricin. Une fois encore, une autre vérité. Vous voyez là, voyez-vous, une grande mission que vous avez accomplie à cause de la foi que vous avez en Dieu, mais que ce n'est pas arrivé parce que Dieu a fait preuve de bonté. Et tout d'un coup, vous vous attachez à une petite plante, et pour vous, cette plante devient importante. Mais qu'est-ce que c'est qu'une plante? Comme le Christ a dit, nous sommes tous comme des vers qui vivons aujourd'hui et demain ne le sont plus. Ou bien comme de l'herbe du champ qui pousse aujourd'hui, qui meurt demain. C'est ce que nous sommes. Cette plante que Dieu a fait pousser Dieu l'a fait aussi périr le lendemain. Et alors que Jonas attachait tout son amour à cette plante, alors qu'il avait oublié qu'il y avait tant de gens à Ninive pour lesquels Dieu avait preuve de miséricorde. C'est cette leçon que Dieu voulait que Jonas apprenne. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le lendemain, verset 7, chapitre 4, Jonas, Dieu fit venir un ver qui piqua la plante et le raisin sécha. Une autre leçon, Dieu montre à Jonas, écoute, voilà cette plante que tu aimes. Tout d'un coup, elle meurt. Et tu ne te rends pas compte qu'il y avait tellement de gens à Ninive qui étaient au bord, ou bien au risque de mourir. J'ai eu pitié d'eux. Maintenant, je fais mourir la plante et voilà que tu es à nouveau mécontent. Je paraphrase, évidemment. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Au lever du soleil, verset 8, ça fait rire parce que j'ai eu tellement de gens qui lire ces choses n'ont jamais rien compris. Et ils se demandent, mais pourquoi le livre de Jonas? Ce livre de Jonas, je n'ai fait qu'effleurer les idées. Il y a tellement d'idées que j'aurais pu vous donner une centaine de versets bibliques qui se rapportent à ce livre de Jonas. C'est beaucoup plus profond que vous le pensez. C'est l'un des livres les plus importants de la Bible, qui montre l'importance du Christ, qui montre, qui typifie le Christ, la bonté de Dieu, et comment nous devons tous croire en Dieu et nous repentir de nos péchés. Donc, au lever du soleil, le soleil paraît et frappe la tête de Jonas, au point qu'il tomba en défaillance. Ça, c'était tout à fait humain, la façon dont Jonas réagit. Ah, vous savez, les gens, moi je vais mourir, j'en peux plus. C'est ce que Jonas dit à nouveau. Il dit, la mort m'est préférable à la vie. Il a déjà dit ça une fois, vous savez. Alors, c'est comme ça. Parfois, nous décrochons tellement facilement. Oh, j'en peux plus, c'est fini. Mais qu'est-ce qui se passe? Maintenant, voilà la leçon vraiment qui nous fait réfléchir. Dieu dit à Jonas, regardez voir la bonté de Dieu. Si nous, en tant qu'êtres humains, nous pouvions lire au moins cette conclusion de ce livre, même si nous ne comprenons rien, et voir comment Dieu répond à quelqu'un qui n'est pas content que Dieu fasse preuve de bonté à l'égard de quelqu'un d'autre, à l'égard d'une nation. Si vous avez aujourd'hui un ennemi, et que Dieu bénit cet ennemi, serez-vous irrité comme Jonas si cet ennemi change d'attitude? Si cet ennemi se repent de ses péchés? Si c'est le cas, vous tombez dans la même catégorie, voyez-vous. Regardez voir ce que Dieu dit à Jonas, verset 10. Il dit, tu as eu pitié, dit-il, du raisin qui t'a coûté absolument rien. Autrement dit, tu n'as rien fait pour que cette plante pousse. C'est Dieu qui a fait. Tu l'as aimé, d'accord, et que Dieu fait disparaître cette plante, et voilà que tu n'es pas contente. Tu n'es pas contente. Il dit, tu n'as rien fait, pourtant tu as eu pitié de cette plante, que tu n'as fait aucune peine, et qui est née, dit-il, dans une nuit, et qui a péri dans la nuit. Voilà le verset principal, verset 11. Regardez voir, je vous ai dit, il y a quelques instants, Ninive était grande. Plus grand que Paris, peut-être, plus grand que n'importe quelle ville. Regardez voir ce qu'il y avait. Et moi, dit-il, je n'aurai pas pitié, c'est Dieu qui parle de Ninive, la grande ville dans laquelle il se trouve, quoi, plus de 120 individus, hommes, si vous voulez, qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, autrement dit des enfants. Il y avait autant d'enfants dans cette ville. Et ça, c'est les enfants seulement. Et vous comptez les adultes. Donc, il y avait tellement de personnes, dit-il, dans cette ville, c'est une grande, grande ville, que j'ai sauvé et que toi, tu te fâches, sans compter, dit-il, les animaux et tout ça. Alors, je dis, franchement parlant, ce serment, ce n'est pas la fin de mon serment, ce serment vous donne une idée de ce que j'avais à dire. La leçon que nous devons tirer, d'abord, le livre est réel, Jonas est réel. Le Christ s'est servi de cet exemple pour montrer que lui-même est mort et est resté 3 jours et 30 nuits au sein de la terre, qu'il est ressuscité 3e jour, autrement dit 3 jours après, comme Jonas a passé 3 jours et 3 nuits. Le Christ nous montre la bonté de Dieu, comme il a montré ici dans le livre de Jonas. Je vous dis, j'avais au moins une quinzaine de versets que j'avais déjà devant moi. Mais je vous invite à aller chercher vous-même. Cherchez dans la Bible comment le Christ s'est référé à Élisée, à Élie, à Ésaïe, à Jérémie, dans les évangiles. Et avec tout ce groupe, le Christ s'est aussi référé à Jonas. Comme j'ai dit dans Matthieu 12, cherchez. Vous verrez que le Christ donne cet exemple en tant que preuve de sa divinité. Ensuite, cherchez encore dans les Écritures pour voir, on ne peut pas se cacher des yeux de Dieu. Dieu est partout. Laissez-moi peut-être citer encore un verset avant de quitter. Prenez Psaume 139. Non, 103, 139. Pour vous montrer que si Dieu vous dit quelque chose, faites-le. Ne tâchez pas de vous évader. Ne tâchez pas de disparaître ou bien de prendre un raccourci comme Jonas. Vous n'y arriverez pas. Psaume 139. Vous savez, Jonas aurait dû se poser cette question. Où irai-je loin de ton esprit? « Où fuirai-je ?» Verset 7, psaume 139. « L'on ne t'en fasse. »« Si je monte au ciel, dit-il, tu y es. » Eh oui, Dieu est partout. « Si je me couche au séjour des morts, tu vois là. »« Si je prends des ailes de l'aurore, dit-il, et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduit. » Et ta droite me saisira. Si je dis, au moins, dit-il, les ténèbres m'environnent, la nuit devient lumière autour de moi. Même, dit-il, les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour, et les ténèbres comme la lumière. Ensuite, verset 13, c'est toi qui as formé mes reins, etc. Voilà, mes frères et mes sœurs. Ne tâchez pas de suivre l'exemple de Jonas en ce qui concerne de vous évader. Si Dieu vous confie une mission, faites-la. Si Dieu vous donne des ordres, obéissez-y et vous serez toujours bénis. Ne soyez jamais jaloux si Dieu bénit quelqu'un d'autre, même si c'est votre ennemi. Soyez miséricordieux comme Dieu lui-même est miséricordieux. C'est ce que le Christ a dit. C'est ce que nous apprenons en lisant ce livre de Jonas.